Centre Congolais présenté par Alain Hirung.
Bonsoir. Suspension depuis le week-end dernier par le vice-premier ministre chargé de l'intérieur de la session extraordinaire de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, décision que rejettent les députés provinciaux. Comment analyser cette situation et que faire pour la décanter? Nos invités dans cette émission sont Honorable Gilbert Kalinda, rapporteur de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Honorable Kalinda, bonsoir. Honorable Jean-Louis Ernest Caviro, porte-parole du gouverneur de la province du Nord Kivu. Honorable Caviro, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Soudi Alimassi Kimputu, expert en décentralisation. Maître Soudi, bonsoir. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Maître Soudi, vous nous suivez? Voilà, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Vos réactions sont déjà très nombreuses comme d'habitude. Kipokajaps de Moba Okatanga dit qu'il doit y avoir des raisons bien fondées qui ont milité à la suspension de la session par le ministre. Sinon, légalement, la session peut être convoquée, mais l'on doit toujours éviter des tiraillements inutiles en utilisant une bonne communication entre les institutions. Maître Jean-Paul Lumbulumbu, au Nord Kivu, cette crise institutionnelle est une menace. Pour la démocratie congolaise, la session extraordinaire initiée par les parlementaires aurait pu se pencher sur des questions telles la gestion de recettes dans la province, la sécurité et l'abandon des travaux sur les grandes artères. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Bras de fer entre le ministère national de l'Intérieur et l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. À la base, la suspension vendredi dernier par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de la session extraordinaire convoquée par l'Assemblée provinciale pour traiter des questions en rapport avec le social et les finances. La salle des plénières de la BDGL, où siège en général l'Assemblée, reste quadrillée depuis samedi par la police anti-émeute. Une situation que déplorent les députés. Certains observateurs pensent que cette situation risque même d'engendrer une crise institutionnelle. Denis Lukeso.
Pour le ministre de l'Intérieur, plusieurs députés candidats à la députation nationale ont perdu leur siège au niveau provincial et ne peuvent plus siéger à ce niveau. Le ministre Lumanu avance comme deuxième motivation le fait que la session extraordinaire a été convoquée par les vice-présidents de cet organe délibérant à l'absence du titulaire. Tout en déplorant cette mesure, le député eux campent sur leur position. Honorable Kalinda est rapporteur.
C'est quand même dangereux qu'un corps élu puisse, dans l'exercice normal de ses fonctions, être bloqué par un corps qui lui est complètement extérieur, qui n'est même pas concerné par le présent contrôle.
Conséquence de cette mesure du ministre, le policier commis à la garde du vice-président de l'Assemblée provinciale, lequel a convoqué cette session extraordinaire, sont retirés. Entre-temps, les réactions commencent à fuser. Le salon politique du Nord Kivu s'est dit préoccupé par ce qu'il considère déjà comme une crise institutionnelle. Certains observateurs pensent que la décision du ministre de l'Intérieur, Adolphe Lumanu, cache des intentions politiques. L'application de la loi par les deux parties est restée la seule voie de sortie de cette crise entre les deux institutions provinciales, indique un avocat local. Goma, Denise Lukeso, Radio Capi.
Merci Denise Lukeso. Honorable Jean-Louis Ernest Caviro, je rappelle que vous êtes porte-parole du gouverneur de la province du Nord Kivu. L'exécutif provincial a exécuté la décision du vice-premier ministre chargé de l'Intérieur. Quelles en sont les véritables raisons?
Vous savez, messieurs les journalistes, le monde entier doit savoir que ce qui était en train de se passer comme convocation de la session extraordinaire était en fait une manœuvre politicienne et tout à fait alimentaire. Je le dis ouvertement pour que les Congolais qui nous suivent maintenant sachent que avant même la convocation de cette session, nous avons subi au niveau du gouvernorat une forte pression des députés provinciaux dont certains demandaient 30 000 $ pour qu'ils puissent aller en campagne électorale, et pourtant, la province avait déjà libéré 1 200 000 $ pour permettre à ce que ils puissent avoir la première tranche de leur indemnité de sortie. Vous savez que la province du Nord qui vous, au niveau de ses recettes propres, est arrivée au niveau juste au-dessus des 300 000 dollars. Quand vous demandez à ce que chacun des 42 députés provinciaux ait 30 000 dollars, là vous vous empêchez de fonctionner parce que ce sera tout à fait impossible. Et en plus, sur le plan purement juridique, la province du Kasaï oriental, par exemple, le président de l'Assemblée n'a pas attendu des sessions pour constater les changements de parti qui, selon l'article 110 de la Constitution, entraîne immédiatement la perte du mandat. Ce qui est inquiétant, c'est que non seulement on n'a pas invalidé, le bureau de l'Assemblée provinciale n'a pas songé à invalider ceux qui sont en situation irrégulière, mais il n'a même pas mis les validations de ces personnes dans le programme qui a été publié en date du 14. Qui prévoit cette session. Et cette session, donc, a été convoquée à violation de l'article 110 de la Constitution et dans une démarche de pression purement alimentaire. Et en plus de cela, comme cela ne suffisait pas, ce n'est pas le président de l'Assemblée provinciale qui a convoqué cette session, mais bien le reste du bureau, dont 3 sur 4, c'est-à-dire il y a 5 membres du bureau, et sur les 5, 3 avaient des problèmes. Le président n'était pas présent, donc le vice-président Baumbilia a décidé cela avec 3 personnes qui ont déjà changé de parti pendant la campagne électorale. Et nous estimons qu'il est tout à fait malhonnête de la part des députés provinciaux de se faire conduire par des personnes qui ont déjà une validité discutable. Et en plus, avant même que la session ne puisse commencer, toute la ville de Goma avait des SMS que non, ils préparent des histoires pour faire tomber le gouvernement provincial. Donc c'est une session qui avait des intentions bien précises. Et c'est pour cela que, étant donné que ça frisait le complot, vous avez parlé du salon politique du Nord Kivu. Mais le salon politique du Nord Kivu, on n'en a jamais entendu parler. Au niveau des associations, et AFDL retenu au Nord Kivu, on ne connaît pas ce salon politique. Et pire, ce salon politique comprend, parmi les signataires de ces documents dont vous faites allusion aussi à la radio Okapi, des personnalités qui ont été impliquées dans des choses qui ont fait couler des larmes et du sang dans cette province et dont on connaît très bien l'animosité envers le gouverneur Julien Paluku.
Honorable
Kadio, nous sommes dans une démarche tout à fait en dehors de la loi et dans des intentions purement alimentaires.
Alors, étant dans des intentions purement alimentaires, cela laisse-t-il ou donne-t-il la latitude à l'exécutif provincial d'exécuter la décision du vice-premier ministre chargé de l'Intérieur? Pourquoi ne pas laisser la latitude aux députés provinciaux de constater et de prendre les mesures les mesures appropriées?
Écoutez, l'Assemblée provinciale a lu la lettre du gouverneur qui s'inquiétait du fait que la meilleure part et le leadership semblait être pris par des personnes qui doivent être validées, comme M. Kalinda. M. Kalinda était député pour le compte du PPRD. Il est devenu rapporteur de l'Assemblée provinciale pour le compte du PPRD. Et aujourd'hui, quand il a vu qu'on a transporté quelqu'un à Kipon ici, à Goma, il est allé au ME, à l'UNC. Aujourd'hui, il ne devait plus qu'avoir le courage de tirer la conséquence de son comportement. Il veut continuer, tel qu'il est en train de le faire, à parler au nom des députés provinciaux, alors qu'il a déjà perdu le mandat qui devait lui permettre de parler au nom des députés provinciaux. Et c'est là que nous disons, quand il y aura des personnes qui doivent être invalidées, comme on a invalidé à l'Équateur et au Kasaï oriental, qui veulent venir contourner tout en n'étant plus députés provinciaux, pour nous avons trouvé que c'était un problème. On a saisi la hiérarchie, et la hiérarchie a saisi aussi la hiérarchie, si bien que cette décision que vous prétendez être du ministre de l'Intérieur, c'est la décision de l'État congolais. Parce que cette session extraordinaire a violé la Constitution et elle a de mauvaises intentions qui risquent de déstabiliser le pays. C'est une décision souveraine. Et nous l'avons appliqué. La raison n'a pas changé, parce que le chef de l'État qui a les pouvoirs de dissoudre en cas de crise le Parlement provincial, mais cela veut dire que qui peut le plus les moins et les moins, peut les moins étant un principe juridique, il a aussi la possibilité de demander qu'on suspende s'il y a un problème.
Honorable Kavira.
L'Assemblée provinciale ne veut-elle pas tout simplement respecter les normes? On ne comprend pas.
Honorable
il y a des intentions cachées.
Honorable Kavira, je vais vous demander une réponse très brève. Cette démarche est-elle légale?
Elle est totalement légale parce que le pouvoir public a d'abord l'obligation de faire régner l'ordre. Le chef de l'État a comme responsabilité, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et quand il ordonne au ministre de l'Intérieur de faire cette activité qui menace la stabilité du pays, il est dans l'exercice de ses fonctions, et tout ce qu'il y a comme micmac, comme Jérémiade maintenant, c'est tout simplement pour distraire la galerie. Il faut qu'on respecte la loi.
Merci honorable Kaviro, on vous garde tout au long de cette émission. Honorable Gilbert Kalinda, la convocation de cette session extraordinaire n'avait pour but qu'un chantage de la part des députés provinciaux, une manœuvre politicienne et alimentaire, dixit honorable Kaviro. Quelle est votre réaction?
Je vous remercie. D'abord, j'en profite pour souhaiter les vœux les meilleurs à toute la population congolaise. Je voudrais, en commençant de parler, dire d'abord qu'il est préférable que l'honorable Kaviro, qui est en fait un député que je respecte bien, fasse un effort pour ne pas confondre les dires, les actions, les compétences du chef de l'État aux dires, aux actions et aux compétences du vice-premier ministre. Parce que il est en train de vouloir dire ici que le chef de l'État a dit. Le chef de l'État a dit. Nous sommes en train de discuter ensemble de la question sur la légalité du communiqué du vice-premier ministre. Il n'y a aucun acte du chef de l'État, donc il est important que présentement on mette le chef de l'État hors cause, très respectueusement, qu'on aborde la question en rapport avec le courrier ou le message du vice-premier ministre. Ça, c'est une première observation. Une deuxième observation. J'entends l'honorable essayer d'aborder des questions en disant qui peut le plus, peut le moins. C'est la première fois que j'entends qu'on présente ce principe sans le présenter dans quel cadre effectivement il est valable. Écoutez, quand on dit qui peut le plus, peut le moins, cela est valable dans d'autres circonstances, mais pas dans le cadre de l'administration. En tout cas, ici, le professeur Vundouaoué, qui est député national, comprend bien avec moi que en matière de compétences dans l'administration, la compétence est d'attribution. Il faut qu'il y ait une loi précise qui dise voilà, celui qui a telle fonction peut prendre tel type de décision dans tel cadre. Il ne faut pas dire non parce que vous êtes même le président de la République, nous pouvons le remettre dans la décision, dans la discussion. Le président de la République, c'est la haute autorité de la République. Si le président se substitue un seul jour à un chef de quartier, chaque citoyen pourra dire, monsieur, vous avez décidé dans le cadre qui n'est pas de votre compétence. Et quand on va aller devant les juges qui s'occupent de ce genre de questions, on dira non, monsieur le président, allez décider dans le cadre de vos compétences. S'agissant des chefs de quartier, ces compétences sont déterminées par les lois et les divers règlements. Ça veut dire que M. Kaviro doit savoir qu'il ne peut pas dire parce que le vice-premier ministre est vice-premier ministre de la République qu'il peut parler de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu et de dire non, je suis pas. Qu'il peut dire non, je vous autorise de travailler. Non, l'Assemblée provinciale du Nord Kivu travaille, décide selon les lois de la République, selon la Constitution de la République. Et tout le monde, citoyen de la République, respectueux de la République, doit respecter et la loi et les constitutions. Je serai très heureux si l'honorable Kaviro peut vous dire voici l'article tel de la Constitution, voici l'article tel de la loi, voici l'article tel de tel règlement qui donne pouvoir au vice-premier ministre. Vous allez comprendre qu'il est dans les égarements et il n'a aucun texte. Or, nous sommes dans un contexte de démocratie, un État moderne. Nous ne pouvons pas nous gérer aujourd'hui sans tenir compte de nos textes, sans tenir compte de notre constitution, que notre population souveraine a bien adoptée.
Honorable Kalinda.
Oui.
Honorable Kalinda, quelles sont les véritables motivations pour lesquelles vous avez convoqué cette session extraordinaire?
À cette question, je voudrais donner une réponse. Je voulais d'abord aborder la question
très rapidement
pour indiquer qu'il n'y a aucune loi de l'autre côté qui soutienne une quelconque décision contre l'Assemblée. Alors, je voudrais vous dire comment on a fait l'assemblée ou la session extraordinaire. Je dois vous dire que nous nous retrouvons au 15 janvier. Avant, normalement, nous devions avoir une session ordinaire. Le bureau de l'Assemblée réunit la conférence des présidents. Et à l'occasion, on se rend compte qu'il y a une évolution législative et que le chef de l'État, depuis juillet de l'année 2011, a pris, n'est-ce pas, a promulgué la loi numéro 11/011 relative aux finances publiques. Et qu'au terme de cette loi, les calendriers des sessions des assemblées provinciales a fatalement subi une modification. En tenant compte de ça, et en respectant la loi, les députés ont dit, nous ne pouvons pas nous réunir maintenant en session ordinaire. Cependant, en lisant les règlements, les lois et même la Constitution, les députés notent qu'ils ont une porte ouverte de pouvoir se réunir en session extraordinaire. Alors ils disent, si nous voulons effectivement traiter des questions urgentes qui préoccupent les populations de notre province, si nous devons aussi respecter la loi, nous ne pouvons pas nous réunir en session ordinaire. Nous devons plutôt nous réunir en session extraordinaire. Et là, ils prennent les lois, la constitution, les règlements pour dire comment on peut se réunir. Et c'est ça la question. Est-ce qu'on a respecté les différentes formes réglementaires, légales et constitutionnelles pour convoquer la session extraordinaire? Cette question, il faut la poser à mon contradicteur.
Merci.
Mais s'il ne veut pas y répondre, je voudrais dire ceci.
Très rapidement.
L'Assemblée provinciale, je voudrais continuer. L'Assemblée provinciale peut convoquer une session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé. À la demande de qui? À la demande, un, de son bureau. Deux, de la moitié de ses membres. Trois, du gouverneur de province. Quatre, du gouvernement provincial. Cinq, du pouvoir central. Et pour ce qui nous concerne, le bureau a effectivement demandé au président de convoquer une session
Merci.
Extraordinaire.
Mais
et la
honorable Kalinda,
a effectivement été convoquée.
Honorable...
Quand on va aborder la question en rapport avec l'ordre du jour de la session, vous comprendrez beaucoup de ce qui a été la suite des comportements des uns et des autres,
Merci.
Ici ou d'ailleurs.
Merci, honorable. On vous redonne la parole tout à l'heure. Maître Soudi Alimasi Kimputu, vous êtes expert en décentralisation. Quelle est votre analyse à ce niveau du débat?
Merci beaucoup. Vous me suivez?
Oui, oui, nous vous suivons.
Ok, d'accord. Merci beaucoup de la parole. Comme je n'ai toujours cessé de le dire, encore une fois, c'est la question de la mise en œuvre de la décentralisation dans notre pays. Je voudrais que les deux intervenants puissent d'abord avoir leur apaisement et qu'ils considèrent l'ensemble de ce qui se passe comme le problème de mise en œuvre de la décentralisation dans notre pays. La question qui se passe, celle que je viens de suivre les deux intervenants et des informations en ma possession, elle apparaît un peu complexe. Dans ce sens où l'Assemblée provinciale, il est en droit de convoquer ses sessions ordinaires ou extraordinaires. Mais la convocation de ces sessions doit être conformément à la loi et aux différents règlements en la matière. Dans les cas d'espèce, l'Assemblée générale, ça c'est l'information en possession, je crois que peut-être l'honorable pourra dire le contraire. Il se peut que l'Assemblée provinciale en elle-même, elle a été convoquée de manière irrégulière. Ça veut dire par le vice-président, alors que le président de l'Assemblée provinciale lui-même était disponible, n'était pas empêché conformément au texte. Deuxième élément, l'Assemblée provinciale serait contenu de beaucoup de députés provinciaux qui ont changé des partis politiques. Et en cette matière, notre Constitution demande à tous les députés nationaux et provinciaux qui changent de parti politique Donc ils perdent, ces derniers perdent leur mandat automatiquement. Ça veut dire que si l'Assemblée provinciale était convoquée et avait comme point à l'ordre du jour l'invalidation et la validation de mandat, ça, ça serait une très bonne chose. Mais si déjà à partir de ces prémices, l'Assemblée provinciale a convoqué sa session pour un autre motif, et à en croire peut-être que l'honorable Kaviru qui a parlé des demandes d'argent et puis ainsi de suite, il s'ensuit que la tenue de cette Assemblée provinciale et des décisions qui seraient prises au sein de cette Assemblée provinciale provoqueraient des tensions communautaires. Dans ce cas-là, nous revenons à la décision du vice-premier ministre, qui, lui, il a en charge l'ordre public, le maintien de l'ordre public. C'est une notion très vaste. Si les actes ou cette convocation provoqueraient, en cas de tenue de session, un trouble à l'ordre public, le ministre de l'Intérieur est en droit de prendre une décision pour des mesures conservatoires pour qu'il n'y ait pas trouble à l'ordre public. Vous voyez l'analyse, je voudrais quand même qu'on échange un peu à ce niveau-là. S'il est vrai que la convocation de cette assemblée, de cette session d'assemblée provinciale était entachée de cette suite d'irrégularités et qui provoquerait des troubles à l'ordre public, ça justifie, donc la décision du vice-premier ministre est justifiée. Voilà.
Maître Soudi, est-ce qu'il appartient au ministre de constater des irrégularités ou ce sont les députés qui devraient le faire?
Non, d'abord, dans le fonctionnement des institutions provinciales. En principe, ils sont tous des politiciens, ils savent même celui-ci communique. Le ministre de l'Intérieur, il centralise, lui, des informations des services de renseignement, des informations administratives des rapports qui lui appartiennent. Si dans ces rapports, il apparaît qu'il y a risque de troubles à l'ordre public, il peut prendre des mesures conservatoires. En ce moment-là, le reste va se régulariser après. Donc lui, il est vraiment placé dans une position de tel genre de mesure. Mais au cas où il n'y a pas tout ça, il y a une convocation régulière, il n'y a pas un élément qui puisse faire en sorte que le ministre ayant l'intérieur et la sécurité dans ses attributions ne puisse pas trouver une brèche pour prendre cette décision, à ce moment-là, la décision elle est irrégulière. Voilà.
Mais vous avez également suivi l'honorable Kaviru qui a dit que la convocation de cette session avait des mauvaises intentions, notamment nuire au gouverneur, le faire partir. Cette assertion ne donne-t-elle pas raison à ceux qui pensent que c'est une affaire purement politique?
Bon, moi je ne saurais pas vraiment me prononcer sur cet aspect des choses, parce que si... Et je ne pense pas que le vice-premier ministre peut prendre une décision seulement pour protéger un gouverneur de province. Mais lui, le ministre qui a la sécurité dans ses attributions, s'il prend une décision pour maintenir l'ordre public, c'est par rapport à ce que cet acte-là peut produire. Ça veut dire que si on convoque cette session, c'est pour qu'il y ait encore, qu'on mette l'huile dans le feu, c'est-à-dire, ça commence par des motions avec des regroupements, par exemple, des députés qui n'ont plus officiellement mandat par rapport à nos lois et notre constitution, ce n'est pas correct. Donc, je pense que même les points à l'ordre du jour, j'ai suivi l'honorable rapporteur, il a parlé du calendrier, ce qui est tout à fait normal parce que la loi des finances qui a été promulguée a modifié le calendrier, donc il devait statuer sur cette question qui est tout à fait normale. Mais s'il y avait un autre point à l'ordre du jour, par exemple, avec des motions de défiance, je crois que là, il y a à bien voir. Est-ce que c'était une question pour venir se venger contre les uns et les autres? Est-ce que c'est ça, c'est la question qu'il faudra se poser.
Honorable Jean-Louis Ernest Kaviru, vous intervenez juste après cette réaction qui nous vient de Bukavu Sud Kivu pour vous.
Jacques Assungé de Bukavu au Sud Kivu. Notre démocratie régresse beaucoup car l'idée de la séparation du pouvoir est loin d'être respectée en République démocratique du Congo. Comment se fait-il que l'exécutif peut être au four et au moulin dans la gestion des institutions du pays?
Brève réaction, honorable Kaviru.
Est chargé de toutes les autres questions qui sont liées. Il se fait mon frère, le Guyangu de Bukavu, que ce frère qui avec qui je parle aujourd'hui, Il est allé faire la campagne de l'IRC. Et par rapport à la constitution, il ne devait même pas être dans cette émission pour représenter une institution qui a délibérément décidé de quitter en passant à devenir député national. Et il a échoué aux élections comme moi j'ai échoué. Et aujourd'hui, je vais vous informer, nos frères, que les amis, avant même la session, ont déjà diffusé ici à Goma, tout le monde a des SMS où on dit non, cette fois-ci, on va avoir la tête des juillet. Pire que ça, la convocation a été irrégulière, je le répète et je le confirme. Parce que l'article 110 de la Constitution, Gilbert voulait que je parle des articles, je donne des articles. Et l'article 84 de leur propre règlement intérieur dit que celui qui renonce à son parti renonce automatiquement à son mandat. Il est là aujourd'hui à train de parler au nom des mandats qui lui ont été donnés par le PPRD alors qu'il est de l'UNC. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est comme ça que nous allons prendre à nos jeunes qui quittent un parti et qui vont continuer à jouir des avantages de ce parti-là? Deuxièmement, le ministre de l'Intérieur est informé de tout ce que les députés professeurs ont fait. Avant même que la session ne commence, ils ont commencé à raconter partout des choses graves sur le gouverneur. Dès qu'ils ont commencé la session, ils ont mis au point une commission d'enquête. Et vous savez comment elle travaille cette commission d'enquête? Tous les jours, c'est à la radio qu'ils passent des messages contre le gouverneur. Avant-hier, ils disent qu'il est devenu chef Maï-Maï. Hier, ils disent qu'il est impliqué dans les trafics de minerais. Aujourd'hui, ils disent qu'il est en train de corrompre le vice-premier ministre. Des accusations graves. Et donc, on comprend que c'est même la méthodologie, même la déontologie n'est pas respectée. Les députés professionnels, ce sont les gens qui ont le mandat. Nous ne pouvons pas être contrôlés par des gens qui ont déjà perdu leur mandat. Et donc, nous avons demandé que l'Assemblée provinciale, qu'elle veut faire son travail, puisse respecter la loi. La loi dit que si tu as quitté le parti, comme mon contradicteur maintenant, il a volontairement quitté le PPRD. Et il a fait de s'accrocher aux avantages du PPRD, ce n'est pas honnête. Moi, je dis ceci, mon frère. Quand...
Honorable Caviro. Voilà, nous venons de perdre l'honorable Caviro. La réalisation va tenter de le retrouver. Honorable Gilbert Kalinda, quel était l'ordre du jour de cette session et pourquoi avoir convoqué une session sans inscrire, paraît-il, la validation et l'invalidation à l'ordre du jour?
Ok. Je vous remercie de la question. Mais je voudrais, avant de vous donner l'ordre du jour, vous préciser deux points, essentiellement ce qui concerne les arguments qui ont été présentés en rapport au fait que la session extraordinaire aurait été convoquée par le vice-président. Je comprends que peut-être qu'on n'a pas pris beaucoup de temps pour lire les différents textes, mais voilà l'article 31 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale du Nord-Kivu s'agissant des pouvoirs du vice-président. Il est ainsi libellé. Le vice-président est chargé des questions législatives, du contrôle parlementaire, des relations avec les groupes parlementaires et de la sécurité sociale des députés provinciaux. Je poursuis. Il remplace le président en cas de vacances ou d'empêchement. Point. Et voyons quelle est la situation. Quand vous passez au bureau de l'Assemblée, vous allez vous rendre compte qu'il existe une autorisation de sortie. Numéro 004, qui a été signé en date du 10 janvier 2012. Et cette autorisation permet à l'honorable Barry Yangarutuye Léon, qui est président de l'Assemblée provinciale, de se rendre à Rutshuru, dans les chefferies de Bouisha et de Bouito. Vous savez, la sécurité est vraiment mal à l'aise de ce côté. Le président de l'Assemblée a décidé d'aller là-bas. Et il se déplace pourquoi? Pour réconforter la population suite aux différentes catastrophes subies et sensibiliser la même population à la cohabitation pacifique après la période post-électorale. Quand le président vient de faire une sortie régulière comme celle-ci et que le vice-président, en application de l'article dont je venais de vous faire la lecture, l'article 31 du règlement, je crois que il devient hors question que l'on puisse dire que le vice-président n'avait pas compétence de pouvoir convoquer une session.
Allons-y à l'ordre du jour, honorable Kalina.
Oui, bien. On peut revenir à l'ordre du jour parce que vous me demandez d'y aller. Mais je voudrais déjà indiquer que le vice-président a bel et bien compétence. Vous Voilà les points inscrits à l'ordre du jour. Les points inscrits à l'ordre du jour sont les suivants. Premier point, examen de la situation sécuritaire en province du Nord Kivu. Question que toute la population attend. Deuxième point, état des lieux de la gestion des routes de la province par l'effort national d'entretien routier, FONER en sigle. Tout le monde sait quelles sont les sources diverses de revenus pour le FONER et tout le monde sait quel est l'état exact des routes en province. Troisième lieu, échange sur le processus électoral en province du Nord Kivu. Les députés veulent juste échanger. Quatrième point, information sur la taxe sur la valeur ajoutée. Il n'est pas besoin que nous vous indiquions que tous les Congolais aujourd'hui veulent bien savoir quels sont finalement les vrais concepts, quels sont les contours de la notion de la TVA.
Honorable Kalinda.
On a vu la TVA s'appliquer sur beaucoup de choses.
Honorable,
je continue.
Honorable
quatrième point. Cinquième point. Laissez-moi continuer, finir l'ordre du jour.
Allez-y rapidement,
cinquième
parce
point.
Que vous êtes largement en avance sur le temps.
Parlementaire sur les biens et finances de la province. Nous voulons finir un mandat et les députés veulent savoir est-ce que la province a des véhicules, est-ce que la province a des maisons, est-ce que la
Honorable
province
Kalinda.
A des comptes à banque.
Honorable Kalinda.
Deuxième point, regard sur la gestion, sur la situation et la gestion du personnel de l'exécutif provincial.
Honorable Kalinda.
Le gouverneur de demain ne doit pas venir gérer des dettes.
Honorable Kalinda. Voilà. Permettez que nous puissions dialoguer. Les auditeurs qui nous suivent aimeraient que vous puissiez répondre à certaines questions de précision, mais si on n'arrive pas à communiquer, c'est un peu difficile. Maître Soudi, je vous donne la parole et vous intervenez juste après cette réaction qui nous vient de Mbandaka à l'Équateur pour vous.
Chef des travaux Jean-Bernard Mibeko, Mbandaka, province de l'Équateur. Encore une fois, la preuve de la mainmise du pouvoir central sur les institutions politiques provinciales. De quel texte les ministres s'appuient-ils pour prendre une telle décision? La mise en œuvre de la décentralisation en RDC a des difficultés à la suite des interférences du pouvoir central. Le pouvoir central fait tout pour maintenir les institutions politiques provinciales sous sa tutelle. Un tel comportement constitue un frein pour l'instauration d'une véritable décentralisation en RDC. Pour décanter cette situation, il faut tout simplement respecter les dispositions légales en cette matière.
Maître Soudi, je vous propose que l'on prenne la dernière assertion de cet auditeur, de Jean-Bernard Mibeko de Mbandaka, qui dit que pour décanter à cette situation, il faut tout simplement respecter les dispositions légales en cette matière. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire?
Je voudrais d'abord commencer par apporter une petite correction sur son intervention. Il n'y a pas de tutelle entre le pouvoir central et le province. Ça, c'est une des caractéristiques de notre décentralisation. Je crois que...
Apparemment, c'est théorique.
Oui, tout à fait. Je crois que le principe pour tout le monde, c'est de respecter la Constitution. Respecter les lois du pays en matière de mise en œuvre de la décentralisation. Mais la situation actuelle au Nord Kivu appelle une petite analyse. Parce que je viens de suivre le point à l'ordre du jour du vice-président. Et nulle part l'a évoqué une des questions clés qui pose problème. Dans l'ordre du jour, on devait aussi mettre la question de la validation et de l'invalidation des mandats des gens qui ont changé de parti. Parce que c'est une prescription constitutionnelle, et j'ai bien suivi un intervenant qui a parlé du règlement intérieur, qui prévoit leur propre règlement intérieur qui prévoit cela. Parce qu'après les différentes campagnes, après les élections législatives, certes, il y a beaucoup de changements. Alors, il est difficile, surtout dans le contexte actuel, qu'il y ait au sein d'une assemblée provinciale des gens qui ont déjà changé de camp politique et qui prennent des décisions vis-à-vis des chefs des exécutifs qui sont d'autres camps politiques. L'affaire a l'allure d'avoir une nature politique, mais c'est une réalité parce que ça entre en ligne de compte dans la gestion des institutions provinciales. Est-ce que l'honorable peut nous éclairer s'il n'y a pas des gens qui n'ont pas changé de camp politique et qui automatiquement, et ça encore c'est conformément à nos lois et à nos constitutions, qui peut-être convoquerait ce que le ministre de l'Intérieur a évité en prenant la décision que les autres appellent mesures concernantes. Il faudra que le gouvernement puisse nous éclairer sur ce point. Mais quant au respect de la constitution et des lois, c'est une obligation qui est faite à tout le monde, et aux animateurs du pouvoir central, et aux animateurs du pouvoir provincial.
Mais concrètement, Maître Soudi, pour inscrire les points à l'ordre du jour, ce sont les députés provinciaux qui apprécient. Mais pourquoi ça devrait poser problème?
Nous ne sommes pas dans un pays désintégré, monsieur le journaliste. Nous sommes dans une décentralisation. Ça veut dire que nous sommes dans un État unitaire. Un État, comme notre monsieur l'a dit, État uni, mais c'est un État unitaire. La situation sécuritaire, la province du Nord, Kivu, comme celle de Sud-Kivu, sont dans le contexte que tout le monde connaît. Il ne faudra pas que je m'inscris comme si j'étais en train de défendre un cas ou un autre. Non. Ce sont les impératifs de gestion. Le ministre de l'Intérieur ne peut intervenir dans ce cas que pour maintenir l'ordre public, point et trait. Il n'a pas une autre brèche pour empêcher à l'Assemblée provinciale de poser ses actes. Qu'est-ce qui est interprété aujourd'hui comme tentative de trouble à l'ordre public? Parce que je viens de suivre l'honorable qui est dire, qui certainement qui parle pour le compte du gouverneur de province, qui dit que même l'honorable qui parle a changé de parti politique. Et ça, il ne nous a pas dit. S'il a réellement changé de parti politique, c'est qu'il ne peut plus, il a perdu son mandat, par exemple. S'il n'a pas perdu son mandat, c'est qu'il peut engager l'Assemblée provinciale pour les fonctions qu'il exerce. Et avant tout cela, après tout ce qui s'est passé, parce que c'est un fait qui est un fait social, un fait politique réel, et les points à l'ordre du jour devaient commencer par cela pour que ceux qui vont statuer sur le reste. Parce que c'est que le gouvernement provincial évite peut-être qui a fait l'objet du rapport qui a conduit à la décision du ministre de l'Intérieur, serait peut-être le refus d'accepter d'être contrôlé par des personnes qui n'ont plus mandat. Et ça, c'est un fait. Lorsqu'on gère, on doit passer en revue. On ne doit pas seulement dire loi, loi, ça aussi c'est la loi. Et lorsqu'on ne respecte pas ça, on est toujours en marge de la mise en œuvre de la décentralisation. On a changé de camp politique, on laisse, on fait autre chose. Moi, j'ai vu des mandataires qui sont passés à la télévision, qui ont déposé leur démission, et après les élections, et sûr ou pas, ils sont dans les conditions où ils se trouvent. Mais ici, il y a des prescriptions claires à la Constitution, au niveau de la loi et au niveau des différents règlements des assemblées provinciales. Est-ce que le président de l'Assemblée provinciale, le vice-président, qui est en train de débattre avec nous, peut nous rassurer qu'il n'y a pas ces cas dans l'Assemblée provinciale? Parce que ça peut constituer une crainte. Et lorsqu'on invalide, les autres refusent. J'ai même entendu parler des tensions communautaires. Tout ça, ce sont des choses qu'on doit éviter dans les provinces comme le Nord et le Sud.
Alors, Maître Soudi, concrètement, comment on va décanter cette situation? Parce qu'on a l'impression que les deux camps campent sur leur position.
Moi, je pense qu'il faudrait qu'ils puissent revoir, eux, de l'Assemblée provinciale, qu'ils, s'il y a une convocation irrégulière, parce que j'ai suivi la défense du vice-président, si la convocation a été irrégulière, qu'on convoque l'Assemblée de manière régulière, qu'il commence par la problématique de l'invalidation et les validations des mandats de ceux qui ont changé de parti politique. Parce que quand on bat, par exemple, campagne pour un autre parti politique, c'est qu'on est de ces partis-là. Donc on doit laisser les mandats pour l'autre parti dont les élections vous ont conduit à ce poste-là.
Merci.
Et les autres dont les mandats seront validés, ils vont procéder à l'ensemble des points à l'ordre du jour. Moi, je pense que ça va éviter tout ce qui est craint par l'autorité du pouvoir central qui agit au nom du maintien de l'ordre.
Merci, Maître Soudi. Honorable Jean-Louis Ernest Chiaviro, à votre avis, que faut-il pour décanter cette situation? Vous avez suivi les propositions de Maître Soudi.
Il faut simplement que nous puissions respecter les principes, la morale, l'éthique et la loi. Quand Maître Kalinda, avocat de son État, licencié en droit, se permet, en tant qu'avocat, il a déjà perdu le mandat parce qu'il a fait la campagne pour l'UNC. Mais il passe à la radio au Capi, il défend une institution dont, normalement, selon sa conscience, il sait bien qu'il ne doit plus faire partie. Quand il convoque une session extraordinaire, et que dans cette session, ils ne mettent pas parmi les points à l'ordre du jour la validation des mandats des gens qui doivent le remplacer, lui d'abord, mon contradicteur et ses amis. Mais quand il n'y a pas ce point-là, cela veut dire que nous sommes tout à fait dans la logique d'être contrôlé par des personnes qui n'ont plus le mandat. Et en plus, chers auditeurs, je vous informe que ils ont juste parlé de contrôle avant même que la session ne commence. Et toute la ville de Goma ici, qui est en train de me suivre, on sait que chaque jour, Zangi et Jaribou, qui sont deux députés provinciaux, passent pour dire de nouvelles choses sur le gouverneur. Ils disent d'abord qu'il est chef Mai Mai, ils disent qu'il est impliqué dans la gestion, dans les pillages, voulais-je dire, des minéraux. Et tout cela veut dire quoi? Chaque fois qu'ils ont une information dans leur soi-disant enquête, ils passent à la radio. Mais ça, c'est quelle déontologie? C'est quelle façon de gérer les affaires publiques? Les gens qui ont été déplacés, qui ont été chassés du cabinet du gouverneur, et qui vont raconter n'importe quoi, et pas directement avec ça à la radio. Ça, c'est quelle déontologie? On voit leur intention, c'est de se venger contre la victoire du chef de l'État au Nord Kivu. Et ils sont en train d'être manipulés par des personnes qui ont déjà changé de camp et qui se permettent de passer même à la radio au Capi. Vous savez déjà, vous êtes de l'UNC, messieurs. Monsieur Kalinda, vous êtes maintenant de l'UNC. Vous êtes en train de représenter un poste qui doit être interprété. Je termine en disant ceci. Les compatriotes doivent savoir que le Nord Kivu est une zone sensible qui est caractérisée par des tensions parfois tribales. Ces messieurs sont allés chez les Nandés. Ils ont dit aux Nandés que non, voilà, il a nommé un directeur de cabinet Tutsi. Ils sont allés chez ceux qui parlent les Kinyarwanda. Ils ont dit, voilà, l'équipe des affaires étrangères est allée à Butembo. Ils veulent raviver la haine ethnique sur cette terre. Ce sont tous ces éléments-là. Par rapport à ces responsabilités que le gouvernement national a demandé qu'on arrête cette histoire. S'ils veulent que nous puissions écouter les contrôles ou autre chose, il faut qu'ils soient dans la régularité.
Merci, honorable. Merci, honorable Kaviro. Il nous reste moins de 3 minutes pour terminer l'émission. Honorable Gilbert Kalinda, pourquoi vous ne voulez pas quitter l'Assemblée provinciale puisque vous n'avez plus mandat en guise de conclusion?
Je voudrais en fait vous dire d'abord que nous sommes actuellement en session extraordinaire et une session extraordinaire, l'honorable Kabir Olesé, a un ordre du jour bloqué. C'est l'ordre du jour qui est en fait dans la décision de sa convocation. Nous nous sommes mis d'accord que la convocation est régulière et que donc nous devons rester dans le cadre de l'ordre du jour de la convocation.
Et vous continuez à siéger en tant que qui? En quelle qualité?
Je voudrais parler. Kabir lui-même qui vous parle. Il s'est présenté depuis octobre, candidat à un parti politique autre que le sien. Et en novembre, en décembre et en janvier, il a envoyé encore une procuration à Kinshasa pour continuer à recevoir les avantages du député. Pourquoi il le fait? Il le fait parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a eu aucune plénière qui, en vertu de la théorie de l'acte contraire, il n'y a aucune plénière qui a pu invalider son mandat et valider le mandat de son suppléant.
Honorable Kalinda, oui. On a suivi votre argumentation, il nous reste moins d'une minute pour terminer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour décanter la situation, en un mot?
Ce qu'il faut faire, c'est que nous invitons les uns et les autres, essentiellement le pouvoir central, à renoncer à toute initiative de nature à bloquer les activités d'un parlement provincial.
Merci.
Alors qu'il n'y a aucun texte qui le soutienne à cet effet.
Merci, honorable. Maître Soudi, un mot en guise de conclusion.
Merci beaucoup. Les institutions publiques, tant nationales que provinciales, ne sont pas les lieux pour le règlement des comptes. Je crois que autant qu'une partie demande à l'autre de respecter la loi et la Constitution, autant que l'autre partie doit respecter la loi et la Constitution. Ce qui me concerne, pour le problème du Nord Kivu, l'Assemblée provinciale doit être régulièrement convoquée. Pour enlever les suspicions, ils doivent commencer par le point à l'ordre du jour consistant à valider et invalider les mandats de ceux qui ont déjà
signé
des partis politiques et qu'ils siègent et qu'ils exercent leur contrôle tel qu'ils veulent conformément à la loi.
Merci. Merci, Maître Soudi. Honorable Kaviro, juste un mot pour terminer.
J'ai envoyé la procuration pour des indemnités de sortie et Kalinda doit le savoir. Il ne faut pas mentir aux Congolais. Je vous demande, vous, Kalinda, quittez l'Assemblée, vous n'êtes plus de...
Merci, honorable. Merci, honorable. C'est par vous que nous terminons cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Guy Maté, José Junior Oa, notre stagiaire, Samuel Kacha, Kéline Kouté, Alain Goyeté à la mise en onde. Bonne suite de programme sur Radio Capi.